Il est 12h. Le bulletin de midi, Jean-Claude Mabéa.
Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour cette édition de l'actualité de la mi-journée de ce mercredi sur Radio de la Paix, au sommaire de ce bulletin. Modernisation et sécurisation de la chaîne foncière. Les 233 chefs de village de San Pedro disent non à l'attestation de droit d'usage coutumier ADU en abrégé. Ils souhaitent son retrait pur et simple. Vous les entendrez en début dans ce journal. Et puis, au Niger, il n'est pas possible de continuer la coopération militaire faute de fiabilité, selon la ministre allemande des Affaires étrangères en visite en Côte d'Ivoire depuis hier. Et puis, dans le cadre de l'invité de la rédaction, Jean-Claude Combe sera en ligne avec le maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Faubouigny de Cocody. Le professeur Bamba Abdoulaye nous éclairera sur les résultats du premier tour des élections législatives anticipées en France en toute fin d'édition. Voilà pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Notre bulletin s'ouvre sur la lutte contre la désinformation en Afrique. Un séminaire sur cette thématique réunit du 16 au 18 juillet 2024 des experts à Abidjan Plateau en vue de proposer des stratégies pour renforcer la résilience face à la désinformation sur le continent. Il s'agit pour le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, qui est un organisme de développement de la défense des États-Unis, d'aider les participants à mieux comprendre les concepts et tendances clés de la désinformation à travers des échanges de perspectives et des études de cas. Nous vous proposons d'écouter l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba.
Le travail vital que nous avons commencé ensemble se poursuit au cours de cette semaine. Et ce séminaire interministériel nous permet de renforcer notre résilience dans la lutte contre la désinformation et la malinformation. Les défis posés par la désinformation sont flagrants et généralistes. En Afrique, les campagnes de désinformation ont pris une ampleur considérable, alimentées en grande partie par des acteurs extérieurs dont l'intention est de déstabiliser la région. Les conséquences sapent la stabilité, érodent la confiance et entravent les progrès vers la prospérité et la sécurité. Et le rassemblement d'aujourd'hui illustre le pouvoir de la collaboration internationale dans la sauvegarde de nos valeurs communes. Ensemble, nous traçons la voie à suivre, guidée par notre engagement commun en faveur de la vérité et de la transparence. Le gouvernement américain est fier de soutenir la campagne en ligne Tous responsables de la Côte d'Ivoire. Et ce séminaire promet des échanges enrichissants pour nous armer contre les menaces qui évoluent rapidement et pour tirer parti des opportunités d'une révolution de l'information.
C'était hier à l'ouverture des travaux du séminaire sur la désinformation qu'intervenait l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba. Promotion des opportunités d'affaires de la Côte d'Ivoire en Amérique. Un protocole d'accord commercial a donc été signé le jeudi dernier entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis à Abidjan. Acté par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, et le secrétaire adjoint du département du commerce international des États-Unis, Haroun Venkataraman, ce protocole touchera principalement les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie, nous dit Christelle Yesso.
Après la signature du protocole unissant les deux pays, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, indique la portée de ce partenariat.
Ce protocole d'accord nous offre un cadre pour pouvoir booster le niveau des échanges commerciaux, le volume des investissements entre nos deux pays. Nous avons identifié des secteurs économiques stratégiques, notamment les infrastructures socio-économiques dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie. Et nous avons mis l'accent sur la promotion de l'innovation au niveau du secteur industriel et les innovations à faire au niveau de l'économie numérique pour permettre un accès sûr et fiable aux outils d'intelligence numérique et pour pouvoir promouvoir en fait la compétence numérique et renforcer les infrastructures numériques.
Le secrétaire d'État adjoint du département de commerce en charge du commerce international des États-Unis s'est quant à lui réjoui de cet accord tout en percevant la jeunesse comme un atout.
I want to underscore.
Ce protocole va nous permettre déjà d'initier d'autres sujets qui nous concernent ici en Côte d'Ivoire. La population est majoritairement jeune et donc cela représente déjà une opportunité qui va nous permettre de mieux appréhender le secteur des affaires et aussi nous allons nous tourner vers des industries qui sont diverses et ça va nous permettre déjà d'avoir une mainmise ici en Côte d'Ivoire et étendre notre partenariat un peu dans les pays de la sous-région.
Ce protocole d'accord permettra d'offrir plus de visibilité aux opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire à travers les centres d'assistance commerciaux aux États-Unis.
Nous le disions en titre, en parlant de la modernisation et la sécurisation de la chaîne foncière, que l'attestation de droit d'usage coutumier, ADU, entrée en vigueur depuis le 1er juillet dernier, a suscité la réaction des chefs coutumiers de la région de San Pedro. Les chefs des 233 villages de San Pedro se sont donc retrouvés hier mardi pour dénoncer la mise en place unilatérale de l'ADU, entendez l'attestation de droit d'usage coutumier. À travers une déclaration faite à la presse, ces chefs réclame le retrait de l'ADU. On écoute là-dessus Ciro Bruno, président du collectif de la chefferie de Gabiagui et porte-parole des chefs de San Pedro au micro radio de la paix de Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa-Sandra.
Nous, chefs coutumiers des 233 villages de la région San Pedro, avons appris via les canaux de communication modernes la mise en place de façon unilatérale de l'attestation des droits d'usage coutumier ADU par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le motif évoqué par le dit ministère est la délivrance multiple et anarchique des attestations coutumières sur des parcelles par les chefs de village détenteurs des droits coutumiers, créant ainsi des conflits fonciers. Le ministère aurait dû associer tous les acteurs de la chaîne foncière afin de mieux discuter et trouver le mode opératoire convenable. En conséquence, nous, chefs coutumiers de la région de San Pedro, demandons purement et simplement le retrait de l'ADU. Demandons à la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire de se saisir du dossier pour une analyse et apporter une solution concertée et consensuelle. Demandons également aux médiateurs de la République d'agir afin de donner la considération que nous méritons en tant que garant des us et coutumes.
Nous écoutions à l'instant Ciro Bruno, il est le chef du collectif de la chefferie de Gabiagui et porte-parole des chefs de San Pedro. La directrice régionale de la construction, du logement et de l'urbanisme, approchée par notre correspondant sur place à San Pedro, n'a pas voulu réagir à la suite de la déclaration des chefs de San Pedro. De San Pedro, on se rend à Korogo où le ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé le samedi dernier à l'inauguration de Tienien Garage Auto, la toute première concession automobile du nord de la Côte d'Ivoire. C'était en présence de notre correspondant régional, Tommy Corona.
En sa qualité de ministre des Transports, Amadou Koné s'en réjouit et pour cause.
Plusieurs concessions ont été ouvertes depuis 2018, principalement à Abidjan et depuis ces deux dernières années à Bouaké. Le district des Savanes, pour toute la région donc du Grand Nord, commence à enregistrer l'arrivée de concessions à travers la construction de ce garage, qui est également un garage qui constitue une concession. Et c'est une excellente chose. Donc on est en train de rattraper les effets négatifs de mauvaises mesures qui ont été prises en 1998 et qui ont sinistré complètement donc, le secteur de l'automobile avec des conséquences dramatiques.
Quelques caractéristiques de l'ouvrage avec Moïse Djeké, manager général de Tienien Garage Auto.
Tienien Garage
Azoto est équipé d'outils et matériels de dernière génération, permettant l'intervention sur tout type de véhicules légers, même les plus récents. Notre capacité mixte d'absorption journalière est évaluée à 30 véhicules jour. Au niveau des ressources humaines, c'est un total de 16 emplois directs qui ont déjà été créés, en comptant le personnel administratif.
Soulagement et joie perceptible chez Koulibaly Bakary, usager.
Avant, comme l'a dit tout à l'heure le ministre, ou bien des intervenants, il fallait aller jusqu'à Bouaké peut-être pour avoir certaines réparations ou bien certaines opérations pour nos véhicules. Mais aujourd'hui, nous le faisons sur place et c'est à notre avantage.
La matérialisation de ce projet est le fruit d'un partenariat entre Tractafrique et Tienien Garage Auto. Tommy Corona, Korogo, Radio de la Paix.
En page internationale, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a affirmé mardi soir depuis Abidjan qu'il n'était pas possible de continuer la coopération militaire au Niger, faute de fiabilité dans les relations avec le régime arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a près d'un an. L'Allemagne avait annoncé le 6 juillet dernier cesser d'exploiter sa base de transport aérien avec le Niger, ainsi que le retrait de ses soldats d'ici au 31 août 2024 et la fin de sa coopération militaire avec Niamey, rapporte l'AFP. Et puis, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé le 15 juillet la désignation du professeur Abdoulaye Batili en tant qu'envoyé spécial pour les questions internationales et principalement dans la crise qui oppose la CEDEAO aux pays membres de la Confédération des États du Sahel. Interrogé sur cette nomination de celui qui a été facilitateur de la crise au Burundi et puis émissaire de l'ONU en Libye, Jean-Louis Correa, professeur sénégalais de droit à l'université Cheikh Amidou Kane, estime que le professeur Abdoulaye Batili est outillé pour cette mission. On l'écoute.
Je trouve que c'est une excellente chose parce que le professeur Abdoulaye Batili a cette expérience-là, ayant été par le passé représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies toujours en Libye. Avec toute son expérience politique, gouvernementale, je pense qu'il pourrait être quelqu'un de très très bien indiqué pour mener cette mission. Et puis, vous savez, en Afrique aussi, c'est important de prendre des personnes qui ont un âge certain et qui, également du point de vue anthropologique, peuvent un peu faire cette jonction entre les différents peuples africains. Le professeur Batili, venant de l'Est du Sénégal, ayant justement d'un point de vue culturel beaucoup de points communs avec beaucoup de ces peuples qui sont dans cette alliance des États du Sahel. Je pense que ce sont autant d'arguments qui militent en sa faveur pour pouvoir mener une médiation réussie entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel.
À l'instant, le professeur sénégalais de droit à l'université Cheikh Amidou Kane, Jean-Louis Correa, a été joint par Jean-Mélène Bitti depuis Dakar. Place à l'invité de la rédaction pour refermer ce journal. Il s'agit du maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le professeur Bamba Abdoulaye. Il décrypte pour nous les résultats du premier tour des élections législatives anticipées en France. Le professeur Bamba Abdoulaye répond aux questions de Jean-Claude Comé.
Professeur Bamba Abdoulaye, bonjour.
Bonjour, Monsieur Comé.
Le deuxième tour des élections législatives, donc en France, c'était le 7 juillet 2024. Et à la surprise générale, on peut le dire, la nouvelle alliance NFP est en tête, est suivie des macronistes, comme on les appelle. Et puis, le Rassemblement national qui vient en troisième position, alors que le Rassemblement national était déjà la première force lors du premier tour des législatives. Quelle analyse vous faites déjà de ces résultats?
Je dirais que l'objectif premier, c'était d'écarter les risques d'une majorité absolue du Rassemblement national. C'est ce qui a été fait et par la gauche et par la droite. C'est d'abord le premier résultat. Ensuite, on pourrait parler d'une perte de vitesse du parti du président Macron. Mais en même temps, on peut l'analyser de deux façons. C'est vrai que la majorité présidentielle se retrouve en deuxième position. Mais au moins, elle a le mérite d'avoir tout fait pour freiner la montée en puissance du Rassemblement national.
Alors, mais l'intention, en tout cas, c'était d'éviter les extrêmes à Matignon, donc à la primature, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite puisse remporter ces élections. Mais il se trouve que les forces donc constituées de ceux qui sont partisans de Mélenchon arrivent en tête. planète. Qu'est-ce qui s'est passé?
Plusieurs raisons. D'abord, je vous ai parlé du front commun pour éviter que le rassemblement n'arrive au pouvoir, premier élément. Donc, ce qui a créé une unité patriotique dans un premier temps. Le deuxième, le second point, c'est que vous savez que la politique du président Macron depuis quelques temps est quand même décriée avec beaucoup de mouvements sociaux que le pays a connus. Et donc, naturellement, sa gestion a montré certaines limites et les socialistes ont donc profité pour essayer de critiquer un peu, proposer d'autres solutions, d'autres alternatives à la gouvernance de Macron. Donc, d'un côté, il fallait éviter que le Rassemblement national ait une majorité. De l'autre également, il fallait aussi décrier la gestion macroniste. Et je crois que ces deux éléments ont constitué des leviers essentiels sur lesquels se sont appuyés le nouveau Front national. Les socialistes qui donc viennent en tête.
Alors pourquoi les Français ont tant peur donc du Front National qui est devenu Rassemblement National?
Au-delà de la peur, c'est plutôt les valeurs traditionnelles et démocratiques que la France a toujours présentées que la grande majorité des Français veulent préserver. La peur, c'est plus pour nous les Africains qui estimons que si l'Assemblée nationale est au pouvoir, qu'il y ait des politiques anti-africaines. Mais à l'intérieur de la France, il y a des valeurs que les Français estiment universelles, qui font la fierté de la France, qui sont, si vous voulez, un peu l'identité de la France qu'il fallait préserver face à ces extrêmes. Je pense que c'est plus ça que la peur.
Et c'est ce qui a mobilisé toutes ces personnes-là, surtout le pourcentage de participation au second tour a été très élevé, n'est-ce pas?
Oui, parce que, un, il y a d'abord eu beaucoup de désistements au niveau des deux partis qui ne voulaient pas du tout que l'Assemblée nationale arrive en tête, c'est un premier élément. Le second élément, il fallait préserver ses acquis démocratiques et cette identité française. Et troisième élément, la politique annoncée même par l'Assemblée nationale à travers ses extrêmes est parfois source d'inquiétude même pour l'image de la France à l'extérieur. Et donc, quand vous mettez tout ça ensemble, naturellement... Mais je dirais que pour l'observateur de la scène politique en France, c'est pas nouveau. Hein. Chaque fois que le Rassemblement national, après un premier tour des élections, est en tête ou est en bonne position... Tout est fait pour éviter donc qu'au second tour, que l'Assemblée nationale soit en tête. Donc ce n'est pas nouveau, il y a des valeurs qu'on veut préserver, il y a des valeurs auxquelles la France tient, les Français tiennent. Et je pense que tant que l'Assemblée nationale aura ce discours-là, ça va être difficile pour lui d'être en tête et au premier et au deuxième tour. Hein. Peut-être voilà, se revoir.
Mais c'est quand même la troisième force à l'Assemblée, hein, avec les résultats qu'on a actuellement. Il faut compter désormais avec les extrêmes de droite.
Alors, il ne faut pas considérer la troisième place comme un échec, pas du tout. Vous savez que quand vous prenez faites des statistiques des années passées, vous voyez que l'Assemblée nationale monte en puissance. Ça montre déjà un malaise, même dans la société française. Ça montre un malaise au niveau de la politique française. Et je pense qu'au-delà de l'unité que la droite et la gauche ont essayé de faire pour bloquer, il faut peut-être s'attaquer aux racines du mal. Il faut résoudre certains problèmes sociaux en France qui font très souvent les terreaux de la montée en puissance du Rassemblement national.
Alors, il y a un fait. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, donc le président français, est donc dans une situation un peu inconfortable. Hein. La majorité souhaitée n'est pas une réalité, même s'il réussit donc à repositionner son parti en deuxième position à l'Assemblée. Comment il peut manœuvrer pour la suite, hein?
Vous savez, pour nous, les Africains, qui n'avons pas toujours cette culture démocratique, on est inquiets. La France a cette expérience de cohabitation, la désexpérience démocratique. Et je pense que face à l'intérêt national, les Français toujours trouvent les solutions pour essayer de sauver l'essentiel. Donc ça va être une nouvelle expérience pour Macron, mais j'ai confiance à l'expérience démocratique des Français. Je pense que ça leur permettra d'aller à l'essentiel plutôt que de s'attarder sur les détails.
Alors pour terminer, quelles leçons à prendre hein, de ces élections françaises?
C'est que la démocratie, c'est d'abord la volonté du peuple. C'est la première des choses qu'il faut retenir. Et cette volonté, il faut la respecter. Ce que les unes ont traduit, c'est ce que les hommes politiques français vont respecter. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est aussi féliciter le parti majoritaire qui arrive en deuxième position, mais qui accepte le résultat. C'est ça le jeu démocratique.
Merci à vous, professeur Bamba Boulaye.
Merci beaucoup.
Maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le professeur Bamba Abdoulaye, l'invité de la rédaction de ce mercredi, se prêtait aux questions de Jean-Claude Comé. C'est la fin de ce bulletin, le rappel de l'essentiel. modernisation et sécurisation de la chaîne foncière. Les 233 chefs de village de San Pedro disent non à l'attestation de droit d'usage coutumier ADU et souhaitent son retrait pur et simple. Vous avez entendu dans ce journal Ciro Bruno, leur porte-parole. Et puis au Niger, il n'est pas possible de continuer la coopération militaire faute de fiabilité, selon la ministre allemande des Affaires étrangères en visite en Côte d'Ivoire depuis hier. Madame, Monsieur, merci de votre aimable écoute. Nous vous souhaitons un excellent après-midi à l'écoute de Radio de la Paix. Prochain point sur l'actualité, 15h. Tout de suite, la revue de presse assurée par Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. Lors de la conférence de presse conjointe avec la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, dans Fraternité Matin, le président de la République Alassane Ouattara a abordé les préoccupations concernant la stabilité de la Côte d'Ivoire en vue de l'élection présidentielle de 2025. Il a souligné la gestion efficace du pays et les investissements réalisés sur l'ensemble du territoire pour apaiser les partenaires au développement.